France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Je me souviens du plaisir de faire le marché le dimanche matin, place Saint-Sernin à Toulouse avec ma mère et mes frères et sœurs, dans les années 1980, le marché Saint-Sernin qui se déployait autour de la basilique et des artères adjacentes, les étals de fruits, de légumes, de fromages, de viandes, les rôtisseries à ciel ouvert, les plantes, les fleurs, mais aussi les vêtements, les livres, les bibelots divers et variés. Un plaisir qui convoque tous les sens, les bavardages, les palabres, les rires et les sourires, les marchandages, les harangues des commerçants, et revenu à la maison, le plaisir de déguster cette cuisine du marché local et de saison. Ce matin, nous célébrons les marchés qui ont survécu à l'invention de la grande distribution, des galeries marchandes et des livraisons de repas, des lieux désormais concurrencés par de grandes enseignes comme Grand Frais ou par les Halles Gourmandes. Et vous, qu'aimez-vous quand vous faites le marché? Racontez-nous le marché que vous aimez, que vous adorez. Standard ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser message et note vocale. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Des produits frais, du circuit court, beaucoup d'amour.
Même en plein cœur de l'hiver, une fois par semaine, le centre-ville se transforme.
Pour moi, le marché de Pourorade, c'est une institution. C'est réservé le mercredi matin, je ne fais rien d'autre que le marché.
Des odeurs, des couleurs et des sourires un peu partout.
Bonne journée, merci.
Simple passant, commerçant ou restaurateur, personne ne voudrait rater le jour du marché.
On aime ce mouvement, ce bruit, ces échanges avec les gens. On aime, c'est notre culture. Nous, le marché, c'est notre culture. On aime.
Extrait de Météo à la carte en 2025, le marché de Pérorade dans les Landes que notre technicien Philippe Duclos connaît par cœur. Bonjour Olivier Razemont.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes journaliste indépendant, vous collaborez notamment au journal Le Monde et vous publiez un livre très intéressant chez Eco Société. On n'a que du beau, le marché, ingrédient d'une société heureuse. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du One Place à Rungis dans le Val-de-Marne, vous intervenez régulièrement dans cette émission et vous nous direz tout à l'heure ce qu'il y a dans votre panier en cette fin de printemps avec quelques recettes du marché pour ce midi ou peut-être ce soir. Bonjour Lucas Bozek.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes fromager sur les marchés Escudier et Billancourt à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Alors depuis quand êtes-vous fromager sur les marchés? C'est une histoire de père en fils, c'est ça?
Exactement. Alors mon père a créé la fromagerie en 1999 où je l'ai rejoint officiellement il y a 11 ans à temps plein, donc à l'âge de 16 ans, l'âge légal. Aujourd'hui, j'en ai 27. Mais en amont, mes parents, enfin, j'étais déjà sur le marché avant, on va dire.
Vous les aidiez déjà quand vous étiez ado?
Oui, exactement. Ouais.
Qu'est-ce que ça change d'être fromager sur un marché par rapport à une fromagerie traditionnelle? Un fromager dans le sud de Seine-et-Marne, Laurent Beaufort, me disait qu'on pouvait être intimidé à l'idée de pousser la porte d'une fromagerie. Et c'est évidemment pas le cas quand on est fromager sur un marché.
L'avantage du marché, c'est que les gens ils viennent chercher pas forcément que du fromage. Dans le sens, s'ils sont un petit peu perdus ou ils ne savent pas trop où aller, on est là pour eux, on parle assez fort, enfin, c'est assez jovial comme...
C'est un côté intimidant dans la fromagerie traditionnelle, dans la boutique, alors que là, quand on arrive au marché, on vous voit d'ailleurs, on a tout de suite envie de vous acheter du fromage.
L'avantage, c'est qu'effectivement, on nous voit d'abord nous, avant de voir nos étals, et on peut être un peu perdu dans le monde du fromage avec toutes les appellations, qu'est-ce qu'il nous faut, et surtout avec les écarts de prix. Parce que les fromages peuvent vraiment vite monter, alors qu'il peut avoir des très bons rapports qualité-prix. Je pense que sur le marché, on peut plus s'y retrouver, parce que déjà, on voit beaucoup de monde. Le monde peut les aider à s'aiguiller sur quoi prendre, sur que faire. Et puis nous, surtout, on est là pour ça.
Racontez-nous ce plaisir de travailler sur un marché. Racontez-nous un petit peu ce que vous ressentez quand, je ne sais pas, vous arrivez à quelle heure le matin?
À 5h.
5h.
5h, on est présent sur le marché, on fait l'installation jusqu'à 7h30, 8h. 7h30, viennent les premiers clients. Et puis au fur et à mesure des années, c'est avec ces clients-là qu'ils deviennent des amis, voire des amis proches. Ouais. C'est quand j'ai changé tout à l'heure, ce que je disais, quand ils partent en vacances, ils nous ramènent des cadeaux, je reçois des SMS pour mon anniversaire, bonne année, joyeux Noël Lucas. C'est vraiment, on crée une réelle relation comparé à une boutique ou une grande surface, on va dire.
Olivier Razemont, sur ce que vient de nous dire Lucas Bozek, sur ce, voilà, sur cette convivialité, cette chaleur humaine, cette amitié qui naît aussi avec des clients.
En fait, ça s'explique parce que le marché, c'est pas tous les jours. C'est un, deux, voire trois jours par semaine. Et donc, c'est maintenant ou jamais. Et ça fait qu'on se, forcément, on se retrouve entre nous. On peut connaître potentiellement d'autres clients. Et en plus, il y a une forme de précarité. On est sur le domaine public. On est parfois alors dans un marché couvert. On peut être aussi la plupart du temps dehors. Et donc, il y a une sorte de précarité qui naît de tout ça. Et de cette précarité naît une forme de convivialité avec la première question qui vient, c'est par rapport au temps qu'il fait, bien sûr. Et puis après, tout un tas d'autres choses. Et c'est cette temporalité particulière qui entraîne, qui est à l'origine notamment de la convivialité. Et beaucoup de commerçants m'ont raconté ça, ce rapport précis. Alors, je suis sûr que vous connaissez exactement où les clients vont en vacances, combien ils ont d'enfants, combien ils ont de petits-enfants. On sait, en écoutant simplement les autres clients, quand les autres sont en vacances ou quand ils vont accueillir leurs petits-enfants. Il y a comme ça des confidences qui se font aux marchands. Mais comme il y a tous les gens autour, ils écoutent aussi. Et donc, par définition, ça devient un lieu de convivialité.
On vous fait pas mal de confidences, j'imagine, Lucas Bozek.
Énormément. Enfin, à ce niveau-là, énormément. Je connais plus la vie privée, on va dire, de certains clients que de membres de ma famille, par exemple, pour être honnête. Et puis surtout, on les voit plus que certains membres de nos familles.
Alors, je décrivais l'émerveillement du marché Saint-Sernin à Toulouse dans les années 1980. Nous avons tous des souvenirs marquants de marché, hein, Grégory Cohen.
Oui, on en a tous. Et puis,
Vous, par exemple ?
Ben moi, c'est étant petit, avec ma mère, quand j'allais faire le marché, j'étais en fait, quand on est petit, on a une vision qui est complètement différente du marché parce qu'on est au niveau des étals et on est au niveau des jambes et des gens, on se fait bousculer un peu et puis on a en repère les voix des commerçants qui commencent à annoncer leurs promos ou qui annoncent leurs produits ou qui invitent les gens à venir chez eux. Et en fait, c'est ça qui est assez magique. T'as l'impression d'être dans un... C'est pas un cirque, mais presque.
Non, c'est une scène de théâtre.
C'est une scène de théâtre,
c'est une scène de théâtre,
ouais.
Olivier Razemont.
Oui, on a les trois éléments du théâtre classique, hein, l'unité de temps, de lieu et d'action. Et donc, effectivement, c'est une scène de théâtre avec en plus les costumes. On s'habille différemment, pas les clients, hein, les commerçants, quitte à mettre carrément des espèces de cirés, comme si les poissonniers avaient passé la nuit sur un chalutier. Bon, non, en fait, ils sont arrivés effectivement à 5h du matin. Mais bon, voilà, il y a une sorte de mise en scène un petit peu, des sacs qui sont assortis aux tenues des, ou les calots du marchand d'olives, etc. Donc, il y a une mise en scène. Et puis, il y a ce qu'on dit aussi. Il y a 1 euro, 1 euro, ou alors c'est gratuit jusqu'à la caisse, ce qu'on fait pour faire venir les clients. Tout ça, on est un petit peu au théâtre. Et en plus, on est, quand on est client, soi-même acteur. Mmh. Et donc, on joue son propre rôle.
Lucas Bozek, vous avez l'impression de participer à une mise en scène, à une pièce de théâtre. Vous êtes l'un des acteurs principaux.
Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire et que je le fais avec plaisir. C'est quand je suis au marché, je joue un rôle. Pas dans le sens faux ou quoi que ce soit, mais je suis beaucoup plus jovial que dans la vraie vie. On se laisse aller. On a peur de rien. C'est-à-dire que moi, je sais que je tutoie mes clients, on s'appelle par nos noms, par nos prénoms, on fait des grands gestes, En fait, on veut se faire voir et entendre, et c'est ça que les gens, ils adorent.
Avec le marché, se mêlent à la fois les souvenirs personnels, on les a évoqués, et l'imaginaire collectif, Olivier Razemont.
On a tous une image, une fois qu'on a passé le barrage de la polysémie du mot, on l'a entendu tout à l'heure, marché financier, non. Donc là, on a compris qu'il s'agissait du marché forain, c'est son nom officiel.
C'est ce que disait Charline Vanhoenacker avant l'émission.
Et ensuite, effectivement, on a chacun. Alors, il y a un imaginaire collectif parce qu'on a. Alors, il y a cette chanson de Beko qui revient souvent avec le thym, la garrigue et les figues et les échalotes de Marie-Charlotte. Bon. Et puis, il y a quand même cette espèce de village français, c'est vrai, qui est parfois un décor, qui est un décor un peu imaginaire qu'on a et dans lequel il y a forcément un marché. On n'imagine pas une bourgade sans marché. Et quand on imagine un marché, on imagine souvent le sien, mais on imagine celui aussi un peu fantasmé du village d'Occitanie ou de Provence.
Grégory Cohen.
Oui, c'est ça. Quand on va faire ses courses dans un marché, on a l'impression d'être en prise directe avec le producteur aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne qui va nous vendre les produits, c'est la personne qui allait les sourcer ou voire même la personne qui a élevé, récolté. On fait cet équivoque où on est sûr d'être, en théorie, en confiance dans ce marché-là, où on va avoir le bon petit produit qui a bien été trouvé et qui m'est bien expliqué et très bien vendu.
Olivier... Même si c'est parfois mis en scène quand même, tout ça. parce qu'effectivement, c'est parfois le vrai producteur. Puis évidemment, il y a cette espèce de jeu théâtral qui consiste à ajouter un peu de paille sur l'étal. Alors parfois, ça se voit, c'est très visible. On dit, oh là là, celui-là, on va pas aller. Et puis d'autres fois, c'est voilà, les ongles pleins de terre. Mais des fois, c'est vrai quand même. Et en tout cas, ce qui est génial, c'est quand même, c'est qu'on peut poser des questions. Si on a des doutes, allez-y, posez des questions. Le vendeur va vous répondre. Et puis souvent, il y a le biais de confirmation. Hein, c'est « Ah, ce yaourt ? Ah bah oui, ah oui, très bon choix. » Alors là, c'est sûr, là, on va en acheter.
Olivier Razemont, vous le martelez au début de votre livre. « Le marché, c'est un lieu de rencontre. » Et je vous cite « La quintessence de la vie urbaine. Tandis que les sociétés occidentales se disloquent en archipel de communautés de destin ou d'intérêt, tout le monde se retrouve sur la place centrale du marché. »
Tout le monde peut s'y retrouver en tout cas, beaucoup de gens n'y vont pas, mais c'est vrai qu'on a une quintessence vraiment de la ville, c'est-à-dire qu'on a, quand on veut visiter une ville, quand on veut visiter un quartier, c'est le meilleur moyen de la comprendre. Il faut y passer un peu de temps, on va observer les gens, tout le monde est susceptible d'y venir du quartier, c'est-à-dire que le marché est un miroir de son quartier, on ne va pas forcément avoir un mélange extraordinaire partout, mais on va quand même avoir, même dans les marchés très chics, un ou deux vendeurs qui vont surtout faire comme argument le prix, et donc qui seront plus populaires. Et puis à l'inverse, dans des quartiers populaires, on va avoir quelques marchands plus haut de gamme qui vont attirer également une autre clientèle. Donc on a un mélange qui se fait presque naturellement. On est un peu dans le faire ensemble, en fait.
Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès. Vous faites le marché, vous ?
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup déambuler, j'aime beaucoup flâner, et j'aime beaucoup ce petit rituel, en effet, hebdomadaire.
Quel est le menu de votre chronique « Les Français, mode d'emploi » vers 11h-20 ?
Dans quelques semaines maintenant, beaucoup d'élèves vont passer le baccalauréat et je me suis intéressé à la triche. Ah. La triche qui devient une forme de sport national avec l'arrivée de ce prof particulier qu'on appelle ChatGPT. Mm. Et donc je vais vous parler de cet attrait des Français et notamment des jeunes Français pour la triche.
Rassurez-moi, vous n'avez jamais triché vous, Jérémy Pelletier ?
Non, ou en tout cas un peu comme les sous-doués passent le bac, donc de façon pas très efficace.
Jamais fait prendre.
Allez Rébéi, ça va messieurs ? Je vais vous prendre une salade en sachet s'il vous plaît.
Grand bien vous fasse.
En sachet ? Non, en sachet sous plastique. Y en a pas ? Donc je suis censée manger de la salade sale ?
Sur France Inter.
Et ce matin, nous célébrons les marchés dans nos villes et villages et ce qui peut les menacer à terme.
Derrière les étals ou devant, le marché de Peyrorade, c'est souvent une histoire de famille.
Énorme les oranges, ouais. Merci, au revoir. Je viens tous les mercredis matins au marché avec mes petites filles. Chercher des légumes frais, le fromage, quand il fait beau, bien sûr. Bon, ben, on va chercher des patates douces.
Françoise, fidèle du marché, veut apprendre à ses petites filles à consommer de saison.
Tu les choisis, Cali ? On essaye d'acheter des produits de producteurs autour de Peyrorade.
Même si l'inflation a rattrapé les étals.
75 et 77.
Voilà, merci. Il y a une différence de prix depuis 4-5 ans quand même. La vie augmente, hein, mais quand même il y a une différence de qualité par rapport à une grande surface. On préfère payer peut-être un peu plus cher et avoir de la qualité, hein, aussi. Et des produits locaux surtout.
Extrait de Météo à la carte sur France 3 en 2025 et beaucoup, beaucoup de messages à propos de notre thème ce matin. Élodie qui nous écrit « Quel plaisir ce thème du marché, c'est vraiment le plaisir de la semaine, j'ai déjà hâte d'être samedi matin, j'aime tellement le marché que j'intègre tout le temps une scène de marché dans les romans que j'écris. Pour moi, c'est le marché Saint-Aubin que j'adore à Toulouse. Val qui nous écrit « Aller au marché, c'est résister ». Et puis François qui nous dit « Eh bien aujourd'hui, c'est jeudi, c'est jour de marché à Carbonne, en Haute-Garonne. On y va systématiquement, entre les achats et les rencontres, c'est à chaque fois 2 ou 3 heures précieuses. » Alors Olivier Razemont, je rappelle que vous publiez « On n'a que du beau, le marché ingrédient d'une société heureuse ». Le marché tel que nous le connaissons dans nos villes françaises, c'est une spécificité de notre pays ?
Alors, je ne croyais pas au départ, j'essayais de ne pas être chauvin et je regardais un peu ce qui se passait dans d'autres pays, mais en fait, de manière... Alors, observation récurrente, mais quand même, enfin, répétée quand même, dans beaucoup, beaucoup de pays d'Europe, j'ai constaté qu'il n'y avait pas forcément toujours cet ensemble de choses qui est le marché, le café qui est à côté, dans la bourgade de 2000 ou 3000 habitants. Et il y a bien sûr des marchés dans tous les pays et dans le monde entier, évidemment. Il y en a des magnifiques en Afrique, en Asie, etc., partout, en Amérique latine. Mais le fait d'avoir vraiment ce marché-là, partout, avec cette simplicité, cette convivialité, initié cette discussion. On peut le retrouver dans des grandes villes en Allemagne. En Italie, on en retrouve également, y compris parfois dans des petites villes. Mais le fait d'avoir quelque chose aussi systématique que ça, il me semble qu'on l'a trouvé surtout en France. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est effectivement ce rapport à la gastronomie dont on parle beaucoup en France et qui est, c'est vrai, les gens continuent à faire beaucoup plus la cuisine que dans d'autres pays. Et la deuxième chose est plus négative, c'est qu'en fait, la France a multiplié la grande distribution massivement, plus que les autres pays, a donc tué une bonne partie des commerces de centre-ville. Il y a des bourgades où il y a plus de boutiques, il y a des marchés qui se tiennent sur fond de vitrines vides à Descartes en Indre-et-Loire ou à Cossa dans le Tarn-et-Garonne. Et donc le marché devient le seul endroit où on peut encore faire ses courses de proximité, de produits frais, sans aller au supermarché.
Alors le marché remonte au Moyen-Âge. À l'époque, cela désigne aussi bien des échanges commerciaux ou financiers que la zone géographique dans laquelle il s'exerce. Et pendant longtemps, pas de marché sans ville et pas de ville sans marché. Hein.
Oui, c'est inhérent à la ville. C'est le vrai plus vieux métier du monde, bien sûr. C'est même pratiquement pour ça que la ville s'est créée. C'est pour les échanges. C'est pour les échanges entre les échanges de biens et puis également les échanges, les discussions, les échanges d'idées. Beaucoup d'échanges d'idées sont venus par le marché autrefois et encore aujourd'hui, c'est là qu'on fait signer des pétitions féministes. C'est là qu'il y a bien sûr la distribution des tracts électoraux. C'est aussi là que la ville se fait. Dans la Drôme, on dit, c'est pas dans la Drôme, c'est dans le Lot, mais je crois que c'est un peu partout, c'est Radio Platane. Voilà, et c'est là que ça se fait.
Vous avez vu Lucas Bozek, je rappelle que vous êtes fromager sur le marché Escudier-Billancourt, vous exercez l'un des plus vieux métiers du monde.
Oui.
Vous êtes ravi de l'apprendre.
Je viens de l'apprendre.
Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Oui, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a des objets qui sont vraiment associés au marché. Olivier l'évoquait, il y a évidemment le lieu du café. D'ailleurs, beaucoup de cafés, beaucoup de bars, que ce soit des bars PMU ou autres, s'appellent le bar du marché, s'appellent le café du marché. Et donc finalement, sont associés au marché, à l'objet même du marché, à l'espace du marché, tout un tas d'autres espaces qui participent aussi au rituel du marché. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on va faire le marché, il faut du temps. La personne, en effet, tout à l'heure, dans le reportage, disait il faut 2 heures ou 3 heures, parce qu'en effet, il faut du temps pour la flânerie, il faut du temps pour passer, en effet, d'étal en étal, et parce qu'il n'y a pas que le marché, il y a le moment du marché en tant que tel, mais il y a le moment du café ensuite, il peut y avoir le moment de l'apéro, le moment du petit verre avec les quelques personnes avec lesquelles vous avez fait le marché. Donc c'est tout un ensemble finalement de lieux et d'espaces qui participent d'ailleurs aussi à la revitalisation d'une façon générale aussi des centres-bourgs et des centres-villes. Donc le marché est une chose, mais il y a aussi ce qui se passe après le marché, en l'occurrence souvent l'apéro.
Lucas Bozek, vous avez réagi au mot apéro.
Ouais, non, c'est parce que je pense à effectivement, surtout le week-end, où sur l'un des marchés à Billancourt, il y a 3 cafés, dont un qui s'appelle le café du marché. Je peux servir des clients à 8h ou 8h30 et à midi quand moi je vais passer prendre un café ou quelque chose comme ça, ils sont en terrasse avec d'autres clients qu'ils ont croisés et ils passent en fait toute leur matinale et c'est une partie de la vie sociale.
Olivier Razemont.
Ce qui est fascinant, c'est justement la transformation de ce bar, qui est parfois un espèce de bar un peu pourri, qui porte un nom de marque de cigarettes des années 60, le Balto, le Maryland, avec les chaises en plastique. Les autres jours, il ne se passe pas grand-chose. Et puis là, il y a une sorte de transfiguration, un peu comme la place du marché d'ailleurs, d'une petite ville de 3000 habitants qui a un parking le reste du temps avec les portières qui claquent et puis voilà. Et puis le jour du marché, ça devient un lieu où les enfants courent, où les gens se parlent, etc. Il y a une forme de transformation de la ville ce jour-là.
Certains marchés se produisent le même jour de la semaine et au même endroit depuis des siècles.
Oui.
Je pense au marché d'Élis à Rennes.
Oui, alors lui c'est 400 ans, mais sinon je crois qu'il y a Tournu, c'est le même jour depuis la fin du premier millénaire, pratiquement. Il y a La Châtre en Indre qui est depuis aussi, je crois, 500 ou 600 ans. Enfin voilà, on a vraiment, et alors c'est évidemment pas les mêmes produits. voilà. C'était à l'époque un marché très local. Il y avait des foires pour les échanges internationaux entre la Flandre, le nord d'Italie, etc. Mais par contre, le marché était très local. On vendait quand même beaucoup des feuilles, des produits qu'on pouvait produire localement.
Combien de marchés en France, Olivier Razemont?
Alors, on arrive. Le marché est tellement peu étudié qu'on ne sait pas exactement. Alors, il y a des gens qui disent que c'est 5000, d'autres qui disent que c'est 8000, d'autres qui disent que c'est 12000. Je ne les ai pas tous comptés, mais en tout cas, on peut dire plusieurs milliers.
Peut-on dire de façon schématique, un peu caricaturale, qu'il y a les marchés bourgeois et les marchés populaires? À Paris, par exemple, le marché Barbès ou le métro aérien dans le 18e arrondissement n'a rien à voir avec le marché Raspail dans le très chic 6e arrondissement de la capitale. Deux salles, deux ambiances. C'est un peu caricatural peut-être.
Oui, c'est caricatural parce qu'en fait, même au Vésiné, il y a quelqu'un qui va essayer de vendre des choses les moins chères possibles. Et puis ville très chic des Yvelines, en banlieue ouest de Paris. Et puis même à Vaux-en-Velin, au Mas du Taureau, il y aura dans la banlieue de Lyon, il y aura forcément un fromager qui va avoir une clientèle un peu plus.
Vous citez dans votre livre le marché de la Croix-Rousse à Lyon, à Vazem à Lille, boulevard de la Marne à Strasbourg, sont des marchés qui se divisent aussi en plusieurs parties avec des offres qui s'adressent à des clientèles très différentes, aisées et populaires.
Voilà, Oisem à Lille, c'est effectivement là les plus chics et dehors moins.
Vous, Lucas Bozek, à Boulogne-Billancourt, les marchés Escudier-Billancourt ne s'adressent pas exactement aux mêmes populations ?
Fut un certain temps, il y avait réellement une vraie différence entre les deux. On va dire le marché Escudier, qui était Boulogne-Nord, plus proche de Paris 16e, était un peu plus bourgeois, on va dire, que le marché Billancourt était un peu plus populaire. On voit toujours au niveau des commerçants, par exemple, il y a beaucoup plus de ce que j'appelle de bazar ou de bric-à-brac qui vendent des choses à 1€, 50 centimes d'euros maximum sur le marché Billancourt. Mais il y en a quand même de plus en plus qui viennent aussi à Escudier parce que tout le monde fait attention à ses finances. Si on peut avoir une bonne affaire, on est tous preneurs. Donc ça se mélange de plus en plus, on va dire.
Sous l'apparent joyeux désordre, Olivier Razemont, le marché répond à une méticuleuse chorégraphie dont le placier est le chef d'orchestre. Parlez-nous de ce rouage essentiel du marché, le placier.
Ah ben c'est la personne qui, comme son nom l'indique, est chargée de placer les commerçants, alors qu'il leur dit, voilà, vous allez vous mettre à tel endroit. Souvent, ils sont au même endroit, mais c'est pas un droit. On est sur le domaine public, donc tout ça est précaire et révocable. Et donc, s'il faut changer le marché, on change le marché. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les passagers. Alors, ils portent des noms différents. Je crois que c'est les commissionnaires, on les appelle les volants en région parisienne. Enfin, ceux-là, ils sont là de temps en temps. Et il faut aussi les placer. Alors, on les appelle à 8h du matin. On leur dit, voilà, vous allez vous mettre à tel endroit et n'en bougez pas. Et puis, la semaine d'après, ils seront peut-être à un autre endroit. Le marché, c'est une organisation. C'est pas une génération spontanée. Ça nécessite une organisation d'abord par la souvent c'est la mairie qui s'en occupe et puis ensuite jour après jour lorsqu'il se tient avec en plus des policiers municipaux qui sont chargés de faire respecter les règles. On demande aux commerçants d'apporter les preuves qu'ils sont bien commerçants. Quand ils sont pas assurés, ça pose un problème. On me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée à Chaumont en Haute-Marne où il n'y avait pas d'assurance et un matelas a brûlé, où la rôtisserie a brûlé, ça fait brûler des matelas, le placier a été licencié tout simplement parce qu'il n'avait pas respecté.
Lucas Bozek, vos rapports avec les placiers ?
C'est vrai que en région parisienne, on parle de volant. Oui. Nous, par exemple, moi, j'ai ma place fixe avec tout ce qui est alimentaire, parce qu'on n'a pas le droit d'être pas en place fixe quand on vend de l'alimentaire. Et par exemple, tous les matins, à 7h, effectivement, il y a un tirage au sort avec le placier qui l'arbitre, on va dire. Et donc, tous les volants viennent, choisissent leur place au hasard. Et s'il n'y a plus de place, y en a certains qui rentrent chez eux.
C'est payant d'avoir une place ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous payez quand vous mettez votre stand au marché ?
Moi, par exemple, c'est des halles. Enfin, je laisse mes vitrines, elles sont statiques, elles ne bougent pas. Moi, je suis en régime municipal, c'est-à-dire c'est la ville de Boulogne-Billancourt qui gère nos marchés. Qu'on remercie d'ailleurs. Et donc tous les mois, on a un loyer qu'on leur paye. D'accord. Par contre, les volants payent leur place à la journée.
Comment ça se passe si moi j'ai envie de m'installer ? Voilà, je décide d'abandonner le métier d'animateur de radio.
Ah, mais c'est compatible, vous pouvez faire les deux.
Oui, mais pourquoi pas.
C'est tôt le matin le marché.
Pardon ?
C'est tôt le matin le marché. On peut faire le marché avant et l'émission après.
La radio aussi, c'est tôt le matin. Mais voilà, si j'avais envie de monter un stand de scones. Voilà, j'adore faire des scones. Comment ça se passe si je veux monter ce stand-là ?
Il faut aller voir la mairie. Moi, j'en ai rencontré des gens. J'ai à Orléans, comme ça, une dame qui était bancaire, elle est devenue pâtissière et elle s'est mise à faire ses gâteaux. Elle est allée voir la mairie. Elle a demandé une place. Elle a dit est-ce que à tel endroit. On lui dit oui, marché du Noix, le droit de place. Alors, je sais pas combien vous payez à Boulogne pour le droit de place par mois.
C'est pas super cher.
C'est pas super cher.
Je sais que sur les marchés des Hauts-de-Seine, on est bien placé.
Oui. Non, mais voilà. Enfin, en tout cas, en gros, c'est pas. Des fois, c'est parfois 80 centimes par mètre la matinée. Alors, c'est parfois un peu plus, c'est parfois. Mais enfin, globalement, c'est. Et puis, voilà, on s'installe. Il faut quand même une entreprise. Il faut créer une entreprise au départ. Et puis, parfois, il y a même aussi des. Il y avait, un peu moins maintenant, mais des gens qui viennent simplement le samedi vendre leur propre production locale et qu'on admet également au marché. Mais il y a toujours le droit de place à payer.
Alors, le pic de fréquentation du marché, c'est vers 10h30, 11h.
Ça dépend des régions, mais globalement, c'est ça.
Et puis, vers midi et demi, c'est le reflux jusqu'à la ferme. fermeture vers 13h30, 14h30. Là, le rideau tombe de la représentation du marché. Et là, vous le dites, l'espace public retrouve sa banalité. Vous parlez même du blues de l'après-marché.
Ah oui, c'est fascinant. Villefranche-de-Rouergue, le jeudi midi, le jeudi en début d'après-midi, ça devient tristouné, tout le monde est parti, la fête est terminée, les commerçants sédentaires ont fait leurs meilleures affaires le jeudi matin, en l'occurrence à Villefranche-de-Rouergue, parce qu'il y avait le marché et qu'il y avait donc plus de monde. Et puis, ben oui, ça redevient comme avant, c'est un peu tristouné. Il y a même un moment assez magique, j'ai vu ça à Vienne, dans l'Isère, où les nettoyeuses sont passées, les souffleuses, etc. Il est 13h30, et puis la circulation revient à 14h, et le stationnement aussi. Et donc, il y a un moment comme ça, pendant une demi-heure, où il y a pas de voiture du tout dans la ville, et il n'y a pas non plus de marché. Et là, c'est assez bizarre, parce que c'est la ville dans son ensemble, et les piétons en profitent, on se balade, et on profite de la ville telle qu'elle devrait être également, dans l'après-marché, puis après, ben oui, le samedi normal reprend ses droits.
Jérémy Pelletier.
En effet, c'est ce qui fait du marché un moment un peu à part, un peu séparé du reste, et hors un peu temps et hors époque. Et en effet, Olivier l'a évoqué, c'est le moment où on met les voitures un peu en dehors, en effet, de la ville. C'est le moment où on met les voitures en dehors du centre-ville, en dehors de la place. Et finalement, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes de France, au-delà des grandes métropoles, c'est l'un des rares moments, en effet, où on interdit aux voitures pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et donc, on met une parenthèse au flux, on met une parenthèse à la vitesse, on met une parenthèse, en effet, à la banalité, en effet, de nos quotidiens, ce qui fait, en effet, du marché, une parenthèse, en effet, des vies et du rythme de la ville.
Olivier Razemont, l'un des plaisirs du marché, c'est qu'il nous apporte de la couleur dans nos villes et villages, des couleurs qui reflètent les saisons, la saisonnalité des produits, plaisir des yeux, des formes, des couleurs, donc plaisir des parfums, des odeurs plus ou moins fortes, hein, si on se balade du côté de chez vous, monsieur le fromager. Ça sent aussi l'iode, le poulet rôti, la friture, la brioche, le café torréfié.
Voilà, c'est la vie, quoi. Tous les sens sont... C'est assez marrant, parce que dans une grande ville, il y a la campagne qui vient, en quelque sorte. On a sur les quais du Rhône à Lyon, d'un seul coup, la campagne arrive, et on se retrouve un peu, voilà, il y a effectivement un peu de terre, il y a la gouaille des commerçants, on discute, machin. On est à la campagne. Et puis, c'est l'inverse dans un petit village, dans un village, une petite ville de 2000 habitants. Et bien là, c'est pratiquement la ville qui vient, parce que d'un seul coup, on a tout un tas de produits, et pas seulement alimentaires, aussi les ustensiles de cuisine, les chapeaux, etc., qu'on peut acheter. Alors, avec des commerces qui ne sont pas là les autres jours. Donc ça devient, finalement, la petite ville se transforme en grande ville le temps du marché.
Alors ce qui est formidable avec le marché, c'est que c'est un lieu qui valorise le patrimoine gastronomique. Grégory Cohen, je rappelle que vous êtes chef. Et c'est un lieu aussi où l'on met en scène les cuisines du monde. Hein. Sur les marchés, on va pouvoir trouver de la tradition locale, mais aussi une ouverture au monde avec un stand de couscous, de produits thaï ou chinois ou japonais. C'est ça qui est beau aussi dans le marché, Grégory Cohen.
C'est une évolution qui a lieu depuis quelques temps, mais il y a des marqueurs principaux qui sont sur les marchés toujours à peu près les mêmes. Il y a la rôtisserie qui doit impérativement être là et qui marche plutôt...
Tout le matin.
Voilà.
Tout.
Et qui fonctionne bien, 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 où on a justement ces poulets qui sont en train de rôtir devant nous, etc. On a le poissonnier qui doit être là, les légumes, les maraîchers, les fromagers, et depuis peu, alors peut-être je me trompe, l'historien, mais depuis peu, on a l'émergence de certains produits ou de certaines choses qui reviennent. Donc on a le producteur hyper local qui revient à Paris ou en région parisienne, qui est le producteur, par exemple, qui fait des pommes et qui fait son jus de pomme en Île-de-France et qui va venir et qui va vendre ses pommes. Et on va avoir l'impression de se reconnecter, l'urbanisme va se reconnecter à la campagne. Et puis, on a ces cuisines du monde, effectivement. Alors, elles sont asiatiques, elles sont orientales, elles viennent épicer un petit peu le marché. Elles sont italiennes depuis très longtemps. On a très souvent ce stand avec les pâtes, les raviolis et les produits italiens, et elle commence à évoluer. En fait, le marché, c'est vraiment un cœur qui bat, donc qui est vivant. C'est le cœur qui bat de la ville. C'est ce rendez-vous où, d'un seul coup, les voisins ne sont plus ceux de l'immeuble, mais sont ceux de l'ensemble de la ville. Donc, on va revoir un tel de tel quartier et l'autre de tel quartier. Et c'est vraiment l'agora où on se retrouve On échange, c'est hyper important aussi stratégiquement, politiquement pour le maire, parce que c'est lui qui orchestre tout ça, puisque c'est lui qui fait battre ce quartier. Il y a eu un grand problème à Neuilly à un moment où on a déplacé le marché. La place du marché était en travaux, elle devait être rénovée. Waouh. Et du coup, on a poussé le marché et d'un seul coup, bah, tout le monde était perdu. On ne savait plus où était notre vendeur préféré de tel endroit, etc. Et le marché s'était allongé. Donc c'est une vie complète et hyper intéressante qui évolue avec la société.
Olivier Razemont. Le marché, bien sûr qu'il a cette image médiévale qui durerait depuis 1000 ans, mais il change régulièrement. On le voit par exemple avec les moyens de paiement. Ça a totalement changé avec le Covid. On avait encore des affiches pas de carte bancaire, et puis maintenant c'est presque disparu. On paye beaucoup plus en carte bancaire qu'autrefois. Le marché s'adapte. Alors vous l'avez dit très bien, Grégory Cohen, les produits portugais aussi maintenant sont devenus mainstream. Tout le monde en prend. On n'a pas besoin de portugais pour acheter des produits portugais. Et donc il y a une sorte d'évolution. Et alors ce qui est marrant avec cette histoire de changement de lieu. Alors, à chaque fois, c'est un très grand problème, en effet. C'est en tout cas présenté comme ça par les commerçants qui disent « Quel scandale, on n'en retrouvera plus, etc. » Moi, j'ai un exemple à Saint-Maur-des-Fossés, le marché à Danville, elle a une très belle halle qui est en train d'être faite. Donc, le marché a déménagé à l'automne, je crois. Et là, au début, tout le monde disait « Non, mais c'est nul, on l'a mis autour d'un rond-point. » Et puis maintenant, les gens disent « Ah bah, finalement, c'est très bien, est-ce que vraiment il va falloir retourner sous la halle ?» Donc voilà, donc le marché s'adapte assez facilement et c'est ça aussi qui fait une de ses forces.
Allez, il est 10h40, l'heure de retrouver les Français mode d'emploi de Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Regardez Salomon, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors Jérémy Pelletier, ce matin, vous nous parlez d'un penchant un peu spécial chez les Français, le penchant pour la triche.
Quel genre de tricheur êtes-vous, mon cher Ali ?
No comment, je vous dirai ça hors antenne.
Et ben on en parlera. À quelle équipe de tricheurs appartenez-vous ? Le merveilleux Sacha Guitry, dans son livre « Mémoire d'un tricheur », nous dit que s'il y a bien 100 façons de tricher, il n'y a guère que 3 sortes de tricheurs. Il y a le joueur qui triche, qui ne triche que parce qu'il joue, qui le fait sans méthode, sans préméditation, d'une manière presque inconsciente, involontaire, et dont on sent très bien qu'il est parfaitement honnête en dehors du jeu. Il y a l'homme qui joue incorrectement parce qu'il est incorrect d'un bout à l'autre de la vie et qui doit penser que ce n'est vraiment pas le moment de l'être. Enfin, il y a le tricheur de profession, conscient et organisé. Eh bien, j'aurais tendance à mettre nos Français dans la 3e catégorie, celle des tricheurs de profession, conscient et organisé, qui trichent avec un certain art et une certaine maîtrise. Alors si je vous dis triche, vous pensez spontanément à de la triche gentille, comme le fait de regarder discrètement les cartes de son voisin lors d'une partie de poker un samedi soir. Ça va, là, ça reste bon enfant. Je vais vous donner quand même quelques exemples qui montrent que nos Français sont un peu plus créatifs que cela dans l'art de la triche. Savez-vous qu'aujourd'hui, 4 candidats sur 10 obtiennent leur code de la route en trichant, sans jamais vraiment le passer normalement et sans jamais, du coup, se faire pincer ? Étonnant et rassurant pour la sécurité routière, non ?
Non, pas du tout.
Êtes-vous au courant que plus de la moitié des Français ont déjà triché avec un faux CV pour obtenir un job ? Faites-vous partie des 40% de Français qui ont déjà usé de stratagèmes pour doubler dans une file d'attente ? Même le monde fabuleux des jeux vidéo n'est pas épargné par ce phénomène de la triche. Certains spécialistes indiquent assister depuis plusieurs mois à une véritable épidémie de triche dans les jeux en ligne, relativisant quelque peu le si joli tableau qu'on nous dresse pourtant du merveilleux gaming français. Dans cet univers très démocratique, on triche seul dans sa chambre pour gagner face à son adversaire en ligne. Bon, élément rassurant malgré tout, dans les enquêtes, les Français se vantent de tricher pas mal, mais déclarent tricher plus qu'ils ne trichent vraiment. Et au classement mondial des grugeurs, il y a une enquête qui montrait ça il n'y a pas très longtemps, nous ne sommes a priori qu'au milieu de tableau, les Allemands seraient les plus honnêtes, les plus tricheurs seraient les Grecs.
Alors Jérémy Pelletier, qui dit triche dit examen, notamment cette fin d'année scolaire.
Alors évidemment, quand on parle de triche, ce qu'on a tous en tête, c'est la gruge à l'école et pour les examens de fin d'année. Eh bien, quelques jours du bac, permettez-moi de vous dire que la gruge est devenue un sport national et un sujet de préoccupation majeure. Car l'époque a bien changé, terminé les petites triches du papier plié dans la poche, les formules mathématiques dans le stylo et toutes ces ingénieuses inventions du film « Les sous-doués passent le bac ». Pour le dire de façon assez simple, l'intelligence artificielle et ChatGPT ont rendu la triche totalement généralisée chez les élèves de collège et de lycée. C'est bien simple, les profs de collège et de lycée vous disent tous qu'il est devenu totalement inutile de donner aujourd'hui des devoirs à faire à la maison, les élèves ayant tous adopté ChatGPT comme prof particulier. C'est ce même ChatGPT que les élèves allaient consulter sur leur téléphone, bien caché sur eux au bout d'une heure d'épreuve du bac blanc tout au long de l'année. Pourquoi au bout d'une heure ? Eh bien, car c'est le moment où la loi autorise les élèves à aller aux toilettes. Donc à partir d'une heure, c'est le défilé pour se soulager et pour aller demander au prof GPT le plan parfait pour notre dissertation de philosophie. Et si vous pensez que c'est juste une mode, dites-vous bien que c'est juste le début. Récemment, la start-up Clueli a développé une intelligence artificielle pour tricher sur tout et a levé 5,3 milliards de dollars. Le principe, l'outil permet aux utilisateurs de tricher lors d'examens, d'appels commerciaux et d'entretiens d'embauche qui se font en visio grâce à une fenêtre cachée dans le navigateur, invisible pour l'examinateur. Première conclusion de tout cela, alors que la triche était un art plein de subtilité, elle est devenue bas de gamme, banale, accessible à tous et sans aucune originalité. Seconde conclusion, à mon avis, la suspicion quant à l'authenticité des écrits des élèves et étudiants sera désormais permanente. Cela aura pour conséquence de réduire encore plus la place des devoirs sur table et de favoriser encore davantage les examens oraux. Pour cette époque pleine de bavardages, c'est assez logique, me direz-vous.
Et la triche dans les marchés, Olivier Razement, c'est pas toujours un monde merveilleux, le marché. Il nous est tous arrivé d'acheter des poulets rôtis douteux, des melons pleins d'eau, des tomates au goût de melon, des pommes farineuses, des abricots acides comme des citrons sans jus, du miel à l'origine douteuse ou des montagnes d'épices éventées.
Bien sûr que ça arrive. Et bien sûr que ça arrive. Alors, et il faut regarder, et c'est pour ça qu'il faut passer un peu de temps. On peut y passer 3 heures, mais on peut aussi simplement y passer 20 minutes et regarder un peu qui, les gens locaux, là, où est-ce qu'ils achètent. Et là, on regarde, on voit les gens qui apportent leur petit sac en papier et qui les rendent aux marchands. Et là, on se dit, tiens, eux, ils sont du coin, on va les suivre. Et puis, il faut quand même dire aussi, c'est vrai que le marché, c'est peut-être, on est dehors une fois de plus, on est dans la précarité, il peut y avoir de la triche, il y a de la triche un peu partout, c'est vrai. La grande distribution le fait aussi, de manière assez légale. Il y a une étude assez récente qui montre que les produits les moins chers sont aussi les moins bons pour la santé. Par contre, c'est légal. Donc voilà, il faut simplement avoir ça en tête. Et je pense que le consommateur doit s'informer au marché comme ailleurs et observer les étals.
Grégory Cohen.
Moi, je ferai une différence entre la triche dont on vient de parler et la malhonnêteté du vendeur qui va aller acheter, et je l'ai déjà vu il n'y a pas si longtemps, de la sucrine à 99 centimes en supermarché, 3 sucrines, et qui va les revendre à 1 euro pièce en enlevant juste le plastique qui va, en fait, il s'en fout, il va même le mettre derrière. Il va rajouter un petit peu de terre dessus et d'un seul coup, ça passe crème. Ça, c'est absolument honteux. C'est honteux parce qu'à côté, il y a des gens qui travaillent vraiment. En fait, c'est pas le problème de celui qui achète, c'est le problème de celui qui produit. C'est le problème du gars qui est honnête à côté. En fait, le malhonnête, il porte préjudice surtout à l'autre qui essaie de vendre des bons produits. Et c'est là où c'est absolument révoltant. Et c'est là où je pense que les placiers, au-delà de uniquement placer, pourraient faire un petit contrôle origine et qualité. Parce qu'aujourd'hui, dans les restaurants, on nous impose de mettre les origines de tout et d'expliquer la traçabilité sur tout. Dans les marchés, ça pourrait être pas mal d'être un peu plus en avant.
Oui, les villes le font. Les élus qui se tiennent leur marché. C'est pas le cas de tous, certains s'en fichent un peu, mais les élus qui tiennent leur marché sont attentifs à ça et essayent de limiter ce genre de choses. Et puis le consommateur, là, une fois de plus, il va regarder, il va goûter, et puis si c'est pas
il
bon...
Il reviendra pas si c'est pas bon. Hein. Lucas Bozek,
fromager. Bonjour, monsieur Cohen, je suis bien d'accord, c'est... Même moi, dans mon domaine du fromage, par exemple, on a des appellations qui sont un cahier des charges très strict, qui amène vraiment la qualité du terroir là où il est fait. Bon, les Osoirati, dans les Pyrénées ou dans le Pays Basque, les choses comme ça, il y a un vrai savoir-faire, une vraie manière de faire. J'en connais plus d'un qui pouvait acheter une tome, on va dire, lambda et qui vont la faire passer en Osoirati. Et c'est là où il faut que les gens aussi se renseignent sur les critères, on va dire, pour reconnaître les vraies choses.
Jérémy Pelletier.
Mais ça suppose du coup une certaine maîtrise, une part de maîtrise chez les consommateurs et chez les déambulateurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en gros que cette maîtrise, elle se transmet souvent de père en fils. C'est-à-dire que vous allez avoir un papa ou une maman qui va dire à ses enfants « va bien ici parce qu'ici on y va depuis 15 ans ». Et donc on sait comment bien choisir finalement tel ou tel producteur, tel ou tel vendeur. Et donc ça suppose aussi une part de maîtrise. Chacun a ses petits... truc, en fait, pour ne pas se faire berner.
Tous les épisodes des Français mode d'emploi de Jérémy Pelletier sont à retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter.
Je suis à côté du stand du mec qui vend les trucs qui servent à rien, là. Tu sais, pour faire les cœurs dans les carottes, là.
Rends bien vous face.
La mandoline. Ouais, je suis là.
Ali Rebbi.
Vous avez peut-être reconnu Camille Cotin dans La Connasse. Et ce matin, nous célébrons les marchés dans nos villes et villages et ce qui peut les menacer à terme. Alors, Olivier Razemont, je rappelle que vous publiez « On a que du beau, le marché ingrédient essentiel d'une société heureuse ». Quelles sont les principales sources d'approvisionnement sur les marchés alimentaires ? La plupart des commerçants se fournissent auprès des marchés d'intérêts nationaux comme celui de Rungis dans le Val-de-Marne.
Alors, beaucoup, mais pas seulement. Alors, oui, surtout en Île-de-France, c'est souvent le cas, mais en fait, il y a aussi beaucoup de producteurs, tout simplement. Il y a aussi tout simplement des revendeurs, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas forcément du... Alors, Rungis, c'est vraiment un énorme marché.
234 hectares, voilà. 1200 entreprises qui emploient 13 000 personnes.
10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance chaque année. Et donc, même quand on essaie de trouver des producteurs un peu différents, bah, en fait, on passe quand même de cette façon par Rungis. Mais ce n'est pas forcément celui qui va à Rungis faire ses achats et faire ses choix. Et on peut simplement avoir l'intermédiaire qui est Rungis. Et puis, il y a les producteurs aussi, les producteurs locaux. Alors, c'est assez extraordinaire parce que les producteurs locaux, alors pas en région parisienne parce que la campagne est trop loin, tout simplement, de Paris, mais dans une petite ville où il y a la campagne autour, ben, le producteur, il est plutôt moins cher parce qu'il n'a pas de chambre froide, il a moins de salariés, il produit directement, il a moins de carburant et il arrive et là, c'est vraiment la vente directe. Et puis, il y a aussi effectivement le revendeur, il y a aussi... On vient en marché pour trouver des produits locaux et on vient aussi au marché pour trouver des produits qui viennent de loin, dans l'est de la France. Le seul endroit où il y a une poissonnerie, bah, c'est au marché, parce qu'on est loin de la mer.
Beaucoup d'auditeurs se plaignent tout de même, on dresse un beau tableau des marchés, se plaignent des prix parfois pour prohibitifs sur certains marchés.
Dans ce cas, il ne faut pas acheter et il faut aller à celui d'à côté. Et puis ça dépend, alors le marché est quand même aussi le reflet de son quartier. Hein, quand on est dans un quartier chic, ça sera plus cher. Il faut à chaque fois se poser aussi la question de l'endroit où on se trouve. Il y a quelque chose qui se développe beaucoup et qui fonctionne très bien. Ça s'appelle la vente à la bassine. Ça se fait à Vienne, dans l'Isère. Et il y a simplement des bassines dans lesquelles il y a à 3 ou 5 euros, dans lesquelles il y a 4 tomates, 2 aubergines, etc. Et donc, on prend la bassine et on sait que c'est ce prix-là. Et ça commence à se voir partout. Ça se fait un peu dans le fromage. Ça se fait un peu dans la poissonnerie aussi, maintenant. Les deux filets de sole à 9 euros. Et là, on sait combien on paye. On n'a pas cette espèce de calcul à faire sur le prix au kilo.
Grégory Cohen.
Et il y a aussi les quantités qu'on achète. C'est-à-dire que quand on arrive dans un marché, le pire moment pour faire ses courses, c'est quand on a faim. et c'est vrai. Et il se trouve que le marché, incroyablement, il tombe pile au moment où on a faim. Et en plus, on voit tellement de produits que ça nous ouvre encore plus l'appétit. Et donc forcément, au lieu de prendre une barquette de fraises, parce qu'on a besoin que d'une barquette de fraises, il y en a deux plus une, donnez-moi les trois. Après, on va aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et du coup, on va se retrouver avec pas une liste de courses vraiment établie, mais on va acheter plus que nécessaire. Et donc, on va avoir ce sentiment de ça nous coûte cher.
Lucas Bozek, fromager à Boulogne-Billancourt, c'est un peu moins cher, plus cher qu'une fromagerie traditionnelle?
Alors, sur une fromagerie qui est en boutique, oui, parce que les loyers sont moindres, on a beaucoup moins de charges.
Donc moins cher?
Sur certaines choses, oui. Après, il y a peut-être, en fonction de certaines... Je sais que j'ai un collègue avec qui je m'entends très bien à côté de mon marché qui est fromager en boutique. Ce que j'explique à mes clients quand ils viennent chez moi en me disant que c'est beaucoup moins cher que chez lui. Je leur dis parce qu'il a une boutique à payer, c'est pas les mêmes frais. Il y a deux équipes pour le marché, pour la boutique le matin et l'après-midi. Moi, je leur dis, j'ai qu'une seule équipe pour le matin. Donc, quand on diminue les frais, forcément, sauf si on est un peu malhonnête, on va dire on va baisser notre marge ou on va baisser nos prix. Donc, sur certains points, moi, je sais que même en grande surface, je me suis retrouvé moins cher que dans des grandes enseignes du fromage au détail. Faut regarder. En fait, faut regarder, faut connaître son commerçant et tout se passera bien.
Grégory Cohen.
Et puis aussi, il faut pas être schizophrène. On veut de la qualité, on veut des bons produits et on veut une rémunération juste et équitable de ceux qui les font. À un moment, on paye un prix et c'est le vrai prix. Et peut-être qu'on a été mal éduqué avant.
Il y a aussi des marchés populaires qui fonctionnent très bien. Et dans les banlieues populaires de Paris, par exemple...
Argenteuil,
Saint-Denis, Villiers-le-Bel, etc. Le marché fonctionne très bien avec des prix très bas.
Qu'est-ce qui menace les marchés aujourd'hui, Olivier Razemont? Qui sont les concurrents les plus féroces? Évidemment, la grande distribution, quand elle copie l'esprit du marché dans certains rayons, qu'elle met en scène d'une certaine façon. Il y a la concurrence aussi, on ne l'a pas cité, de grands frais. Ces magasins implantés partout en France... qui s'inspire de l'ambiance et de la configuration des halles traditionnelles et des marchés couverts. Et vous parlez d'ailleurs à propos de Grand Frais de l'abondance du marché sans les émotions.
Oui, parce que c'est un supermarché en fait. Ouais. En fait, la grande distribution, elle est fascinée. Elle se dit, mais comment c'est possible que des gens viennent acheter le jeudi matin, y compris des fois sous la pluie, seulement une fois par semaine, des choses avec en plus des déchets apparents, et ça marche. Alors, ils essayent de faire pareil. Alors, eux, ils essayent de faire des centres commerciaux dans lesquels, au demi-degré près, ils fixent la température pour que les gens achètent plus, à faire des cheminements de façon à ce que les gens se tournent vers tel produit et ensuite qu'ils le prennent. Et puis là, le marché, ça continue. Donc, ils essaient de le cannibaliser depuis toujours. Et la grande distribution, les commerçants des marchés sont tout à fait opposés à la grande distribution depuis toujours.
Et puis, il y a également la concurrence des halles gourmandes qui sont en fait, vous le dites dans votre livre, pour vous, des centres commerciaux de la restauration. Alors, c'est un concept né aux États-Unis en 1974. Alors, en France, il y a les halles Paul Bocuse à Lyon, la halle du marché Gare à Strasbourg, la communale à Saint-Ouen, Chaubouillon à Lille ou le Populo à Marseille. Qu'est-ce qui vous agace avec toutes ces halles gourmandes?
Voilà, alors moi, je m'y retrouve, j'aime bien la halle Bocuse, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est pas des marchés. C'est-à-dire, c'est ouvert tout le temps. Alors, ça change tout que ça soit ouvert tout le temps. Parce que du coup, c'est. Et puis, c'est un lieu privé avec un loyer privé. Alors, c'est pas le cas à Bocuse, c'est la ville de Lyon. Mais sinon, c'est des lieux privés avec un loyer privé qui est beaucoup plus élevé. La communale à Saint-Ouen s'appelle la communale, ça appartient à un très grand promoteur qui s'appelle Frey et qui vend le camembert 2 euros de plus qu'au vrai marché de Saint-Ouen.
Pour terminer, vos conseils pour bien faire son marché, Olivier Rasmont, c'est votre dernier chapitre.
Il faut prendre un peu de temps, il ne faut pas hésiter à demander, il faut parler avec les gens, il faut parler avec les commerçants, il faut parfois tourner les talons, et puis il faut en parler entre nous aussi, entre clients, discuter, savoir ça vous a plu ça, et puis voilà.
Jérémy Pelletier.
Il faut y aller aussi sur la dernière demi-heure, c'est là où vous faites des grandes opérations de promotion, que vous bénéficiez de grandes opérations de promotion et que vous allez avoir davantage de cadeaux.
Tiens, le fromage à déguster en ce moment, Lucas Bozek.
En ce fromage moment, de saison. Une tome de chèvre au fenugrec.
Oula.
Très très bonne, qui vient de à côté de Chambéry. Et en ce moment, c'est toujours bon.
Vous auriez dû nous en apporter, mon cher Lucas Bozek.
J'y penserai.
Et Grégory Cohen, vous savez quoi, Grégory Cohen, vous ferez votre recette du marché demain dans l'émission.
Hein, avec
plaisir. Vous n'avez pas eu le temps de la faire là, vous la ferez demain. Merci beaucoup, Lucas Bozek. On vous retrouve donc sur les marchés Escudier et Billancourt à Boulogne. Et merci beaucoup, Grégory Cohen, auteur du livre Yalla, ma cuisine méditerranéenne chez Le Duc. Et merci, Olivier Rasmont, un livre passionnant. On n'a que du beau, le marché ingrédient d'une société heureuse, parce que vous le dites dans votre livre, ça permet aussi de lutter contre la solitude urbaine, hein, le marché. Hein.
Exactement, si on se sent un peu seul, on va au marché, on passe 2 heures et on a rencontré plein de gens et peut-être même des amis.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.